Chapitre 64. Richard jeta sur le sol sa poignée de paille, puis il épousseta les brins accrochés au tablier de cuir qu'il avait revêtu pour l'occasion. Après des heures passées à frotter contre le marbre la paille enduite de pâte à polir, ses bras lui faisaient un mal de chien. Mais devant la qualité de son polissage, visible à la manière dont la pierre reflétait la lumière, il oublia ses petites misères. Les deux personnages émergeaient du socle brut de la statue. Sur la base de leurs mollets, Richard n'avait pas utilisé de rifloir pour éliminer les marques des différentes gradines dont il s'était servi tout au long du processus. Une omission volontaire, pour que tout le monde voie que le miracle de la pierre transformée en chair était le résultat du travail d'un homme, pas d'une intervention bienveillante de quelque improbable créateur. L'homme et la femme étaient deux fois plus grands que le sourcier. Si le personnage féminin symbolisait son amour pour Callan, il n'aurait pas pu l'exclure de son travail car elle incarnait pour lui la compagne idéale. Il ne s'agissait pas exactement d'elle, mais plutôt de son essence, comme avec bravoure. Un homme et une femme de bien se tenaient côte à côte, unis par leurs objectifs communs et la détermination de les atteindre. Ils se complétaient, illustrant les deux composantes de la nature humaine. Quelques jours auparavant, alors que Richard travaillait sur le chantier, Victor et ses ouvriers avaient mis en place le piédestal et le cadran solaire. Bien entendu, ils n'avaient à aucun moment soulevé la bâche plus qu'il n'était nécessaire. Peu après, le sourcier avait percé dans la main de l'homme le trou qui permettrait de lui faire tenir le gnomon. Après une finition à la râpe ronde comme prévu, il avait glissé la longue tige d'or terminée par une boule dans la paume du personnage, puis procédé à l'ultime polissage de la main. Victor ne se tenait plus d'impatience à l'idée de voir la statue. Dans quelques jours, toutes ses attentes seraient comblées. À la lumière de la haute fenêtre, Richard s'autorisa à admirer son œuvre pendant quelques minutes. Aujourd'hui, il n'était pas allé sur le chantier afin de pouvoir préparer la statue à son transfert sur l'esplanade le soir même. Dans l'atelier, de l'autre côté de la porte communicante, les ouvriers de Victor travaillaient d'arrache-pied sur les dernières commandes du frère Narev. Dans la pénombre, car le soir tombait déjà, Richard constata que son œuvre était exactement comme il l'avait rêvé. Les personnages semblaient sur le point de prendre leur première inspiration et de faire leur premier pas. Ils avaient des os, des muscles, une peau presque vivante. La transmutation du marbre en chair. Il ne restait plus qu'un détail à ajouter. Richard s'empara d'un maillet et d'un burin très pointu. Quand il regardait la statue, le sourcier se demandait souvent si Callan n'avait pas raison de croire que sa magie l'aidait à sculpter. À chaque fois, il se répondait par la négative. Il s'agissait d'un acte conscient contrôlé par son intelligence, et rien de plus. Ses outils à la main, Richard vécut un moment fabuleux. Savourer la fierté d'avoir réalisé une œuvre qui correspondait en tout point à ce qu'il avait imaginé. Pendant ces quelques minutes, la statue parfaitement achevée n'appartenait qu'à lui. En cet instant-là, ce que pensaient les autres n'avait aucune importance. Face à la création, Richard savait qu'il avait atteint son but et rien ne viendrait jamais gâcher cette certitude. S'agenouillant, il plaqua la lame du burin contre le marbre et s'apprêta à donner ses ultimes coups de maillet. Tirant sur son nez et sa bouche le foulard rouge protecteur, il grava sur le socle le titre de sa statue. Tapis à l'angle d'un bâtiment, Nietzsche observait le flanc de la colline où Richard quittait l'atelier dans lequel il avait sculpté la commande du frère Narev. Il partait sans doute chercher les hommes qui se chargeraient du transport. La sœur de l'obscurité remarqua qu'il avait fermé la porte, mais sans remettre la chaîne en place. À l'évidence, il prévoyait de ne pas être absent longtemps. Sur tout le flanc de la colline, on avait installé des ateliers qui produisaient un vacarme assourdissant. Des hommes grouillaient partout et beaucoup de ceux qui étaient passés à côté de Nietzsche lui avaient jeté des œillades plus ou moins lubriques. Les foudroyants du regard, la sœur de l'obscurité n'avait eu aucune peine à se débarrasser de ses importuns. Dès que Richard ne fut plus en vue, Elle prit le chemin de l'atelier du forgeron. Pour découvrir la statue, elle avait promis d'attendre que Richard en ait terminé. C'était le cas, et elle ne reniait donc pas sa parole. Pourtant, elle se sentait mal à l'aise, comme si elle était sur le point de profaner un site sacré. Richard ne l'avait pas invitée à venir voir la statue. Puisque l'œuvre était achevée, pourquoi aurait-elle attendu plus longtemps? Elle ne voulait pas découvrir l'œuvre de Richard sur l'esplanade en même temps que tout le monde. Seule devant la statue, elle saurait peut-être enfin ce qu'elle cherchait auprès du sorcier déchu. Ce que l'ordre attendait de cette inauguration ne l'intéressait pas davantage que les réactions de la populace qui ne verrait rien de toute façon. Elle était personnellement impliquée dans cette affaire, et pour en dénouer tous les fils, elle avait besoin d'intimité. Elle arriva devant la porte sans qu'aucun malotru ne l'importune. Regardant autour d'elle, elle vit que les travailleurs très affairés ne lui accordaient aucune attention. Ouvrant un des battants, elle se glissa dans l'entrepôt. Il y faisait sombre, mais la statue était éclairée par la lumière qui filtrait d'une haute fenêtre. Sans regarder la création de Richard, car elle voulait la découvrir de face, Nietzsche la contourna lentement, les yeux rivés sur le sol. Une fois en position, elle leva la tête. Son regard erra sur les jambes, les vêtements, puis le torse des deux personnages. Un instant, elle eut l'impression qu'un poing géant lui serrait le cœur pour l'empêcher de battre. Ce qu'elle voyait était l'exact reflet des étincelles qui dansaient dans les yeux de Richard. Une transmutation de la matière en pure pensée. Et pour Nietzsche, cette révélation était un choc, comme si elle avait été frappée par la foudre. À cet instant, sa vie entière, avec tout ce qu'elle avait vu, entendu ou fait, sembla se concentrer en un vortex de violence émotionnelle qui lui arracha un cri de douleur mêlé d'extase. La beauté de ce travail était hallucinante, mais ce n'était rien comparé à la splendeur de ce que Richard avait voulu représenter. Nietzsche remarqua les deux mots gravés sur le socle de marbre. La vie. Submergé par un torrent de sentiments contradictoires, la honte, la fierté, la terreur, la béatitude, le dégoût et l'admiration, la sœur de l'obscurité tomba à genoux et éclata en sanglots. Mais, pour verser de pures larmes de joie.